C'est un plaisir de vous retrouver chaque jour de cet été. Alors bien sûr, vous l'avez compris, il fait très chaud, donc soyez absolument très 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 prudent. Si vous êtes une personne âgée et fragile, n'oubliez pas de vous hydrater parce que voilà, la température est importante, surtout si vous êtes fragile, eh bien, n'oubliez pas de vous hydrater parce que il fait très chaud, restez à l'ombre ou pouvoir aller peut-être aller voir un petit tour au cinéma. Il y a toujours des bons films à voir et puis au moins c'est climatisé. Bonjour David Torchala, vous n'avez pas trop chaud ?
Bonjour, non, vous n'avez pas trop chaud. Vous pouvez aller au cinéma, mais vous pouvez aussi aller dans les églises. Il fait toujours frais.
Et il fait toujours frais, puis voilà, un petit moment de recueillement, tranquillement, à la fraîche, voilà, tranquillement. Alors soyez vraiment prudents et n'oubliez pas de boire, même si vous êtes âgé et que vous n'avez pas la sensation d'avoir soif, eh bien il faut quand même boire. Voilà, après ces conseils, David Torchala, eh bien, on va vous retrouver dans quelques instants pour parler de l'actualité du sanctuaire Notre-Dame de Lourdes. Bon, une semaine où il ne va pas se passer grand-chose, je crois.
Oh là là, la semaine du 15 août à Lourdes, c'est la grande semaine de l'année, je vous en parlais.
Quelques instants. Ah oui, là, on y est, là. La grande semaine du 15 août avec le pèlerinage du National. Vous nous en parlez, puis on parlera aussi de la fête du livre, et dans quelques instants. Et puis on parlera de l'astronomie. Bah oui, là, le temps est dégagé, on peut voir les étoiles la nuit. On sera avec Philippe Pouzet, qui vous fait des propositions pendant cet été. Et puis bien sûr, comme d'habitude, de passage à Lourdes, avec Mathias Terrier. Vous entendrez aussi le témoignage d'une dame qui a vécu une enfance absolument très 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 compliquée et qui est venue trouver de l'espérance à Lourdes. Un très beau témoignage à écouter dans deux passages à Lourdes d'ici quelques instants. Alors vous êtes installé, vous avez le casque sur les oreilles, mon cher David. On parle de l'actualité du sanctuaire Notre-Dame de Lourdes.
Et oui, parce que c'est des dizaines de milliers de pèlerins qui arrivent cette semaine. Et alors particulièrement, il y a plusieurs pèlerinages qui font un grand tout. On va avoir des pèlerins de Côte d'Ivoire, d'Espagne, d'Italie, du Royaume-Uni, etc. Mais particulièrement le pèlerinage national français conduit par la famille des Assomptionnistes. Ce pèlerinage national démarre aujourd'hui. Ils sont 7000 pèlerins à partir des quatre coins de la France et aujourd'hui sont déjà précédés par les hospitaliers de Notre-Dame de Salut. Aujourd'hui, ça s'appelle la journée des serviteurs. Vous voyez, ce soir, tous les pèlerins malades vont arriver en gare de Lourdes avec quatre trains spéciaux. Et pour se préparer, en tout cas, à l'arrivée des pèlerins malades, eh bien, les hospitaliers sont là. Ils sont nombreux. J'ai dit 7000 pèlerins. Ils sont 3500 hospitaliers pour accueillir plus de 700 personnes malades ou en situation de handicap. Et je vais vous dire, avec la canicule, eh bien, il faut quand même adapter le programme. Parce que, vous voyez, ce soir, l'arrivée des trains, il y a beaucoup, beaucoup d'affluence. Et il faut regagner sa chambre d'hôtel ou les accueils médicalisés de Lourdes, l'accueil Notre-Dame, l'accueil Saint-Fré. Eh bien, ça va être ce soir un jeu de vitesse. Il va falloir aller vite parce que le ciel brûle, j'ai envie de dire, à Lourdes aujourd'hui. Donc c'est quand même une préoccupation pour les hospitaliers. Ils sont là et ils s'organisent avec très certainement une horde de fauteuils roulants jusqu'en haut de la ville sur le quai de la gare pour pouvoir redescendre le plus rapidement possible en attendant les navettes de bus. Et puis c'est aussi l'organisation du pèlerinage lui-même, puisque les grandes célébrations qui étaient prévues demain, après-demain sur l'esplanade du Rosaire, elle est belle notre esplanade, il y a très peu d'arbres, donc finalement les places à l'ombre sont tellement chères. Eh bien, nous avons cette formidable opportunité de repli qui est de venir à l'intérieur de la basilique souterraine Saint-Pidis. Cette basilique qui fait 200 mètres de long, 20 000 places. Elle a été conçue pour ça par Monseigneur Théas à l'époque, pour pouvoir abriter les pèlerins des intempéries. Alors oui, il y a la pluie, il y a le froid, mais il y a aussi la canicule qui vient des intempéries habituelles à Lourdes. Donc vraiment, on est dans cette phase où il faut regarder, adapter, mais en même temps, la canicule à Lourdes, finalement, on s'y habitue, et puis ça ne bouleverse pas véritablement l'organisation, parce qu'on a cette basilique souterraine, parce que nous avons ces hospitaliers qui sont là, qui sont présents auprès des personnes malades, parce qu'on a ces petits porteurs d'eau pendant le pèlerinage national. Vous savez qu'il y a toujours à chaque messe ces enfants qui tirent un petit chariot avec des citernes d'eau et qui proposent des timbales et des gobelets aux personnes pour boire. Vous savez, vous l'avez dit en introduction, hydratation, hydratez-vous, vous qui êtes parfois seul dans les appartements, eh bien, quand on est à Lourdes, même si on est dans la chaleur, eh bien, on a la chance d'avoir des anges gardiens un peu autour de nous. Et donc vraiment, c'est un lieu où on prend soin des personnes, de ceux qui ont le plus besoin d'aide, dans un lieu qui fait 50 hectares, qui est quand même traversé par une magnifique rivière qui s'appelle le Gave de Pau, avec beaucoup d'arbres et d'ombre. Donc finalement, à Lourdes, on n'est pas si mal loti que ça.
Voilà, effectivement. Et donc, eh bien, les célébrations, il faudra peut-être suivre sur le site internet les modifications sur le programme en temps réel.
Oui, c'est ça. Ouais. De toute façon, si c'est pas dehors, eh bien c'est dedans. C'est la messe à la basilique Saint-Pédis, donc pour la journée de demain, pour le 13 août. Mais la chaleur ne fera pas reculer la foi des pèlerins de Lourdes, puisque donc le 14 au soir, jeudi soir, nous ferons une grande procession dans le sanctuaire, une des processions les plus belles de l'année. Et puis il y aura évidemment cette messe de l'Assomption. Alors soit elle sera dite sur la prairie, cette fois du sanctuaire près de la grotte, ou à l'intérieur de la basilique Saint-Pédis. Il faudra voir tout ça, mais de toute façon on la retransmettra.
Exactement.
Voilà, que l'on soit à la basilique Saint-Pédis ou à la prairie, on n'oublie pas les auditeurs de Radio Présence, et donc on vous fera vivre en tout cas cette grande messe en communion tous les uns avec les autres.
Voilà, vendredi donc à partir de 10h pour cette grande Eucharistie donc du 15 août à Lourdes. Voilà David, mais également, parce qu'il se passe toujours quelque chose, il y a la fête du livre.
Oui, c'est la deuxième édition de la fête du livre chrétien. Alors c'est vrai que cette tradition de fêter le livre au 15 août, ben, elle était un peu tombée dans l'oubli, et donc le sanctuaire a souhaité renouer avec cette tradition. Et bien à partir de demain et jusqu'au 15 août, la librairie du sanctuaire, la librairie de la grotte, va aller un peu au-delà de ses murs pour se placer à la porte Saint-Joseph. Vous savez, c'est cette entrée de service du sanctuaire qui maintenant fait passer plus de 70 à 80% des pèlerins. Elle est là, c'est un magnifique chapiteau qui est en train de s'achalander là sous la chaleur, et je salue nos amis de la librairie qui préparent vraiment cette belle fête avec des auteurs qui sont aussi intervenants du pèlerinage national. Je pense notamment au père Christophe Sperissen, qui est un grand spécialiste de la pastorale pour les personnes handicapées. Il va venir ici faire un enseignement, il est auteur d'ouvrages, c'est vraiment une référence cette manière qu'il a de nous apprendre à annoncer le Christ aux personnes handicapées. Alors il est peut-être moins connu, une qui est plus connue, c'est Roselyne Hamel. On sait, c'est la sœur du père Jacques Hamel qui a été assassinée lors des attentats de Saint-Étienne de Rouvray. Elle a écrit un livre avec Nacera Kermiche, qui est la mère du meurtrier. Et donc elles ont signé un livre qui s'appelle Sœurs de douleur. Elle sera avec nous le jeudi 14 août en fin d'après-midi pour dédicacer ce livre. C'est absolument poignant. Rosine Hamel a déjà parlé de ce livre, et elle dit que pour chercher pour consoler sa peine, alors bien sûr que c'est une femme pieuse, mais il lui fallait trouver quelqu'un. Elle s'est dit, mais finalement c'est peut-être la mère de l'assassin, c'est peut-être avec elle que je vais pouvoir échanger. Et toutes les deux, voilà, elles ont engagé un parcours ensemble de consolation de ce terrible événement qui a fait pour l'une perdre un frère, pour l'autre on peut dire un fils. Et donc sœur de douleur, c'est des occasions. Il nous faut faire des fêtes comme ça pour pouvoir permettre de faire approcher à tous des auteurs de qualité, des auteurs qui à travers les maisons d'édition religieuses nous offrent des trésors à partager. Alors évidemment on aura Michel Cole, c'est un grand amoureux de Lourdes, auteur de très nombreux livres, et notamment il fera aussi une conférence sur les 100 jours du pape Léon XIV. C'est un passionné du Vatican. On aura aussi Yvon Bertorello, qui est auteur de bande dessinée, puisque se prépare avec le sanctuaire de Lourdes une prochaine bande dessinée avec Stéphane Bern et donc Yvon Bertorello, et ça va sortir en septembre. J'aurai l'occasion de vous redire.
J'espère.
Ça, c'est sûr. Mais on va pouvoir aussi le faire savoir à toutes les personnes qui sont là. Et puis voilà, il y a plein d'autres auteurs. Donc il faut venir nous voir à cette fête du livre. En tout cas, on sera en direct mardi, Philippe.
Mercredi,
on fera un direct depuis la fête du livre.
Voilà, mercredi 13, donc de 12h à 13h, nous serons donc en direct depuis donc, cette fête du livre au sanctuaire Notre-Dame de Lourdes, juste en bas de la petite rampe qui descend de la porte Saint-Joseph. Et puis vendredi, donc, on sera là aussi pour vous faire vivre bien sûr la grande messe du 15 août à partir cette fois-ci de 10h. Plein de rendez-vous, plein de directs cette semaine, on bouleverse un petit peu le programme, mais ça en vaut la peine.
Oui, on bouleverse le programme, et vous savez, c'est ça, c'est aussi l'été. D'avoir une grande fête religieuse, la grande fête de la Vierge Marie en plein été.
C'est exactement. Ben
voilà, on se mobilise pour vivre tout cela ensemble.
Exactement. Merci beaucoup, David. Je pense que vous avez deux ou trois occupations.
Donc... C'est vrai, je ne vous le cache pas. Et d'autres journalistes aussi qui vraiment s'inquiètent pour Londres, se disent qu'est-ce que vous allez faire avec cette canicule? Comment allez-vous organiser ce pèlerinage? Mais vous voyez, dans la sérénité, nous sommes voilà, peut-être un modèle aussi de traitement de la canicule. Voilà, à Lourdes, voilà un exemple où, en fait, il faut s'occuper les uns des autres, avoir le souci des uns et des autres pour arriver à passer ces pics de chaleur.
Oui, et puis on va souhaiter à ceux qui sont peut-être en train d'arriver, au courage à ceux qui se déplacent, qui viennent de quatre coins de la France, qui vont arriver à Lourdes en train, en bus.
Voilà. Ils sont dans le train, ils arrivent, mais je pense qu'ils ne regretteront pas leur pèlerinage autant.
Ça, j'en suis persuadé. Merci beaucoup, David, et puis on se retrouve bien sûr la semaine prochaine.
Oui, c'est ça.
Un grand courage.
Merci à vous.
Et puis à mercredi donc, pour cette émission en direct, donc, où vous serez bien sûr l'animateur, le journaliste qui fera présenter donc, les auteurs. Oh. À mercredi, David.
Une grande joie, à mercredi.
Au revoir.
À Lourdes, la Vierge Marie est apparue en 1858 à Bernadette Soubion. Elle lui demande d'aller dire au prêtre de construire ici une chapelle et de venir ici en procession. C'est la naissance du sanctuaire Notre-Dame de Lourdes. Aujourd'hui encore, des millions de pèlerins parcourent le monde pour venir à Lourdes. Au premier rang, les personnes malades, handicapées, fragilisées par la vie. Lourdes, lieu de consolation, d'espérance, de guérison. Accueillir dignement chaque pèlerin suggère des frais de structure importants. Sans les dons, le sanctuaire ne peut rien. Merci pour votre générosité. Merci pour votre don. www.lourdes-france.com.
Présence à l'Albinque 92.5.
On me dit que nos vies ne valent pas grand-chose, elles passent en un instant comme fanent les roses. On me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos chagrins il s'en fait des manteaux. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. Serait-ce possible alors? On dit que le destin se moque bien de nous, qu'il ne nous donne rien et qu'il nous promet tout. Paraît que le bonheur est à portée de main, alors on tend la main et on se retrouve fou. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. Serait-ce possible alors? Serait-ce possible alors? Mais qui est-ce qui m'a dit que toujours tu m'aimais? Je ne me souviens plus, c'était tard dans la nuit. J'entends encore la voix, mais je ne vois plus les traits. Il vous aime, c'est secret, lui dites pas que je vous l'ai dit. Tu vois, quelqu'un m'a dit que tu m'aimais encore. Mais l'a-t-on vraiment dit que tu m'aimais encore? Serait-ce possible alors? Pas grand chose, elle passe en un instant comme fanent les roses. On me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos tristesses il s'en fait des manteaux. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. Serait-ce possible alors?
Présence dans la vallée de la Rance, 93.1.
Tout ce qu'on avait et tout ce qu'on n'a pas, toutes ces petites choses qu'on oublie parfois, tout ce qui nous manque et nous tend les bras, à tout ce qu'on vivra, à tout ce qu'on vivra.
Le matin, le soleil, quand je le revois, ça fait plaisir, yeah, yeah, yeah. Les amis qui passent, on se revoit, ça fait plaisir, yeah, yeah, yeah. Marcher seul pendant des heures, j'ai la rue sans rhum dans mon cœur. Les après-midi en terrasse, on y revient, ça fait plaisir. Tout ce qu'on avait et tout ce qu'on n'a pas, toutes ces petites choses qu'on oublie parfois, tout ce qui nous manque et nous tend les bras, à tout ce qu'on vivra, à tout ce qu'on vivra. Comme un refrain, ça fait plaisir. Tout ce qu'on avait et tout ce qu'on n'a pas, toutes ces petites choses qu'on oublie parfois, tout ce qui nous manque et nous tend les bras, à tout ce qu'on vivra, à tout ce qu'on vivra. Et j'imagine tout ça, et j'imagine tout ça, même si c'est dur parfois, même si t'es pas là, mais je sais pas si tout est gris, mais moi je vois un soleil qui brille. Ça fait plaisir, ça fait plaisir, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, ça fait plaisir, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Tout ce qu'on avait et tout ce qu'on n'a pas, toutes ces petites choses qu'on oublie parfois, tout ce qui nous manque et nous tend les bras. C'est dur parfois, même si t'es pas là, si t'es pas là.
Présence sur le Causse, 106.5.
C'est un bonheur pour moi de vous accueillir aujourd'hui, Philippe Ouzé, bonjour.
Bonjour Philippe, le bonheur est partagé.
On va partir avec elle un peu à la découverte des vendredis de l'astronomie que vous proposez.
Et donc ça commence à partir de ce vendredi, de Planétarium, qui seront proposé par les membres du club, puisque les élèves de seconde, les jeunes de seconde du club d'astronomie ont passé un diplôme cette année. Et ils l'ont tous eu, ils étaient 12, et les 12 ont eu le diplôme cette année. Et donc, c'est eux qui présenteront cette séance de planétarium qui dure 2 heures tous les vendredis, à partir de 21h jusqu'à 23h, au sein du planétarium de l'Astroclub Lourdes, qui est, je le rappelle, le seul planétarium dans un établissement scolaire en France auquel nous accueillons du public en été. Les gens s'inscrivent uniquement par SMS au téléphone du club, donc au 06 70 44 18 80. Ils donnent leur nombre de participants et le choix de la date de la séance. Et ils reçoivent un SMS de confirmation. C'est donc 10€ par adulte et 5€ par jeune mineur.
Voilà pour les informations, mon cher Philippe Ouzé. Alors, on a bien compris que l'observation se fait à l'extérieur, juste en fin de séance. C'est-à-dire oui. Que toute la première partie, c'est vous profitez des installations de votre planétarium. C'est-à-dire qu'on voit grâce à un vidéoprojecteur une coupole qui est installée dans votre centre, dans votre association, les étoiles. Donc, on veut dire que vous vulgarisez quelque part un peu le ciel que l'on peut voir si on a la chance d'être en campagne et de voir les étoiles.
Voilà, exactement. Mais même en plein centre-ville. Le but de cette animation, en fait, c'est que les gens repartent de cette séance en ayant repéré quelques constellations dans le ciel. Alors ils vont repartir avec une carte qu'on leur donne, une carte du ciel. Et le but, c'est que dans les jours qui vont suivre, eh bien, ils essayent de sortir de chez eux, mais même dans un balcon en plein centre-ville. Le mieux, c'est d'attendre 23 heures, puisque les lumières s'éteignent à partir de 23 heures, et donc on voit un peu plus d'étoiles. Et de tenter de repérer ces très belles constellations d'été, qui sont très très belles. Et puis surtout, à partir du 12 août, ce qu'on appelle les perséides, c'est-à-dire les pluies d'étoiles filantes, qui sont des résidus de poussière de comètes qui rentrent dans l'atmosphère de la Terre et qui brûlent, et qui sont visibles depuis tout le continent européen.
Pourquoi toujours au 12 août? C'est quelque chose qui est récurrent?
Ah oui, c'est récurrent, tout à fait. La Terre tourne sur elle-même en 24 heures, je te l'apprends pas. Puis la Terre tourne aussi autour du Soleil en 365 jours. Et chaque année, à la même époque, la Terre va se retrouver à passer dans une partie de l'espace en tournant autour du Soleil. Et magie céleste, il se trouve que la Terre, ce 12 août, rencontre à chaque fois un nuage de poussière de comète qui a été laissé là. Alors, il y a une comète qui est passée qui s'appelle Swift-Tuttle, qui est passée il y a très très longtemps, qui devrait repasser dans quelques années. Et en passant, en fait, elle a perdu de la matière. Et cette matière, c'est des petits cailloux, des petits grains de poussière de comète. Et chaque année à la même époque, lorsque la Terre rentre dans ce nuage de poussière de comète, eh bien, ces grains de poussière de comète rentrent dans l'atmosphère de la Terre, brûlent assez rapidement. Et quand vous voyez un grain de poussière de comète lumineux, quelque chose de très épais et qui prend un peu de temps à se dégrader dans le ciel, dans cette traînée lumineuse, vous pouvez vous dire que c'est un grain de poussière qui est de la taille probablement d'un pouce, d'un point fermé. Et puis quand c'est des petits jets de matière que vous voyez s'illuminer dans le ciel, c'est beaucoup plus petit. Aucun grain de poussière touche la Terre, puisque tout brûle en rentrant dans l'atmosphère de la Terre. Et c'est ce qu'on appelle les étoiles filantes des Perséides. Et ça a lieu donc à cette période de l'été. Alors attention, ce n'est pas que le 12 août, puisqu'on commence à les voir 15 jours avant, et on continue de les voir 15 jours après, mais le maximum des étoiles filantes se situe aux environs du 12 août.
Vous nous mettez des étoiles dans les yeux, mon cher Philippe Pouzé.
C'est le but.
C'est formidable. Philippe, vous êtes le président de cette belle association, l'Astroclub Lourdes, qui a la particularité, vous l'avez dit tout à l'heure, d'être dans une école. Votre association a le siège social et dans un établissement scolaire avec un équipement de pointe aujourd'hui, on peut le dire.
Oui, tout à fait.
Voilà. Et il y avait, je me souviens, depuis quelques années, un grand rendez-vous début août où on pouvait observer. Vous aviez fait un record au niveau du pic du Gers, je me souviens. En haut du pic du Gers, vous aviez fait un record. Ouais. Est-ce que c'est toujours une opération qui est en cours en France?
Oui, elle est toujours en cours. Nous, on a décidé de lever un peu le pied parce que c'est une machine de, entre guillemets, une machine de guerre à mettre en place, quoi. C'est vraiment quelque chose qui occupe la totalité des mois d'été. Pour mener une opération comme ça, il faut monter près de 400 kilos de matériel au niveau des télescopes, que ce soit on l'a fait au Château Fort ou on l'a fait au Pic du Gers aussi. Effectivement, on a eu deux fois le record de fréquentation pour un petit club d'astronomie sur le territoire français, puisqu'on a reçu plus de 1200 personnes sur une seule nuit au Pic du Gers. Ça, c'est une grosse machine à mettre en place, autant avec la ville de Lourdes, puisqu'il faut la gratuité. Alors au niveau du Château Fort, c'est la gratuité de l'ascenseur. Au niveau du Pic du Gers, c'est la gratuité du
funiculaire.
Donc c'est une grosse machine qui, pour nous, commençait à devenir un tout petit peu imposant. Avec le Covid, on s'était un tout petit peu arrêté. Et puis en essayant de changer un tout petit peu et puis d'innover, on a décidé de privilégier plutôt ces petites animations où on reçoit des publics. Alors on a pas mal de publics scolaires dans l'été, ou extrascolaires des centres aérés du département. Mais là, on privilégie la proximité et le fait qu'on puisse expliquer aux gens sur plusieurs vendredis de l'été ce qu'on peut voir et que ce qu'on peut observer. Et le but, c'est vraiment, c'est ça, on y tient au niveau du club, c'est d'arriver à faire rêver les gens dans cette coupole du planétarium, à pouvoir sortir sur la terrasse avec une carte du ciel, et que eux-mêmes, les gens qui ont participé à cette séance, puissent eux-mêmes arriver à redécouvrir et à relire dans le ciel les constellations qu'on leur a présentées. Il y a par exemple, promis, ça sera ma dernière. C'est une étoile très particulière qu'on appelle les trois belles de l'été, Altaïr, Vega et Deneb, qu'on présentera. Alors Altaïr, c'est une constellation de la constellation de l'aigle, qui est superbe, elle est sublime. Elle est à 17 années-lumière de nous. C'est très loin. Elle a 2 millions de kilomètres de diamètre. C'est très, très important. C'est deux fois le diamètre de notre étoile, le Soleil. Mais elle a une particularité, c'est qu'elle n'est âgée que de 100 millions d'années.
Ah, bah, elle est
notre étoile, est à tout à fait, notre étoile est âgée de 4 milliards 500 millions d'années.
C'est
100 millions d'années.
C'est une ado.
C'est une ado. Et depuis quelque temps, on l'a observée avec des gros télescopes. Alors, pas nos télescopes à nous, mais des gros télescopes terrestres, y compris Hubble, et on s'est rendu compte que cette étoile, en fait, elle n'est pas ronde. Elle a la taille d'une citrouille parce qu'en fait, elle tourne très rapidement sur elle-même. Elle tourne en 7h46 sur elle-même. Ce qui fait qu'en fait, elle a une forme ovalisée. Et alors, elle va se calmer au fur et à mesure des années, des siècles qui vont passer. Elle va se calmer au niveau de sa rotation. Elle va prendre s'ovaliser. Enfin, elle va devenir, elle va avoir un diamètre qui est un diamètre circulaire. Et elle ne ressemblera plus à la citrouille qu'on a observée aujourd'hui avec nos télescopes. Et cette étoile, Altaïr, est merveilleuse parce qu'elle fait partie des trois belles de l'été avec Altaïr, Vega et Deneb. C'est la plus proche de nous. Elle n'est qu'à 17 années-lumière de nous. Vega est à 26 années-lumière de nous. Et puis Deneb, elle est à 2600 années-lumière de nous. C'est juste faramineux au niveau de... C'est l'astronomique, au niveau de ces distances.
Alors, je vais peut-être dire une bêtise, hein, mais vous allez me corriger, non, mon cher Philippe.
Dis-moi.
Chaque point brillant qu'on voit lorsque on regarde le ciel en pleine nuit, c'est chaque fois... Des soleils, nos soleils, quoi. C'est un soleil. C'est pas une planète qui est éclairée par un soleil.
Non.
C'est des soleils.
Non. Ce sont des étoiles.
Des étoiles.
Alors, effectivement, dans notre ciel, on va pouvoir trouver des planètes, mais des planètes de notre système solaire. Hein, Saturne, Jupiter, Mars, Vénus, etc., qui sont à proximité de nous et qui tournent autour de nous. Alors, cet été, on n'a pas trop de chance, il n'y a que Saturne, hein, qui se lève très tard. Elle se lève au niveau de l'Est. La particularité, c'est très facile à reconnaître une planète et une étoile. C'est qu'une planète, en fait, sa lumière, et tu l'as bien dit, est fixe. Parce qu'elle reflète la lumière de notre étoile, le Soleil.
Oui.
Donc c'est comme un miroir. Sa lumière est fixe. Alors que tous les autres points lumineux qu'on peut observer dans le ciel, eh bien, ces étoiles scintillent. Et c'est à partir de là qu'on arrive à voir la différence entre j'observe une étoile qui scintille, un point lumineux qui scintille dans le ciel, et j'observe une planète qui est juste à côté, qui est une planète de notre système solaire, et sa lumière est fixe.
D'accord.
Je la vois briller parce qu'elle est éclairée par notre étoile, le Soleil.
Mais grosso modo, tous les petits points qu'on voit, c'est tous des soleils, quoi.
Soleils, exactement.
Ouais, c'est
exactement.
Tous des soleils. Et alors, la Voie lactée, Philippe, là, qu'est-ce qu'on dit par la Voie lactée, quand on voit toute... C'est des millions de soleils?
C'est ça, exactement.
D'accord.
Notre étoile appartient à une famille d'étoiles qu'on appelle la galaxie, qui s'appelle la Voie lactée, tu l'as très bien dit. Et en fait, depuis la Terre, depuis notre planète, on ne voit que la galaxie par la tranche, en fait. Normal, puisqu'on habite à l'intérieur. On ne peut pas la voir dans sa totalité, il faudrait quitter cette totalité de galaxies qu'on peut pas, nos moyens aujourd'hui actuels ne nous permettent pas de quitter notre Voie lactée. Et donc, ce qu'on voit de notre galaxie, c'est uniquement par la tranche. Et c'est cette draperie lumineuse qu'on peut voir dans le ciel, qui traverse le ciel actuellement, c'est plutôt du nord au sud, en plein été. Et c'est dans cette... alors là, par exemple, amusez-vous simplement, vous prenez une paire de jumelles, vous observez à l'intérieur de la galaxie, de notre galaxie, la Voie lactée. À l'œil nu, vous allez voir quelques étoiles. Avec une petite paire de jumelles, vous allez avoir 100 autres étoiles qui vont apparaître à l'intérieur de votre paire de jumelles, parce que vous êtes en train de regarder le centre de notre galaxie, qui fait uniquement 200 milliards d'étoiles.
Bon, voilà. Est-ce qu'on a déjà quitté d'ailleurs notre galaxie? Jamais. On est allé, on n'a jamais quitté. Enfin, il n'y a rien qui nous a permis de quitter cette galaxie pour voir s'il y en a une autre à côté.
Non, non.
Et s'il y en a une autre, comment? Non, jamais.
Non, non. rappelle les sondes, les premières sondes là qui ont été envoyées dans l'espace, les toutes premières, les pionniers, sont à peine au fin fond de notre système solaire uniquement. Ça veut dire c'est quoi? C'est 7-8 milliards de kilomètres de nous. C'est tout. Ce qui est déjà pas mal. Hein.
Oui, c'est ce qui est absolument gigantesque et c'est incroyable à imaginer. On va rappeler, je laisse Clara rappeler, hein, donc c'est vendredi de l'astronomie qui est donc proposé par votre association, l'Astroclub Lourdes, et pour se repérer dans le ciel. Vous m'aviez expliqué, vous m'aviez même fait télécharger une application, Philippe Houzé, qui nous permettait, lorsqu'on prend cette application, de le mettre sur le ciel, et ça nous aide un petit peu à voir un peu les planètes. Hein.
Alors dites-le à vos auditeurs et téléchargez, c'est Stellarium.
Stellarium.
C'est gratuit, vous le tapez sur Google, vous tapez Stellarium, et on va vous proposer de le télécharger sur votre appareil. Et après, il suffit que vous sortiez le soir, vous prenez votre appareil, vous ouvrez Stellarium et vous mettez l'appareil au-dessus de vous. Et il vous permet de lire les constellations et de repérer les constellations qui sont dans le ciel, à condition que vous localisiez simplement votre téléphone par rapport au point géostationnaire.
Voilà, donc donc il faut allumer la connexion GPS, c'est ça?
C'est ça, c'est ça, tout à fait.
Eh bien écoutez, merci beaucoup Philippe Pouzé, donc on a bien compris, c'est vendredi de l'astronomie, c'est dans votre structure, même c'est s'il pleut, s'il fait mauvais,
oui,
que c'est pas grave puisque vous êtes dans
l'intérieur.
Le planétarium et donc le spectacle est quand même là dans le ciel, dans cette voûte que vous avez dans votre local, et donc il n'y aura pas d'observation à 23h puisqu'il il pleut, mais ça nous empêche qu'on peut quand même venir, hein,
ce n'est jamais annulé.
C'est jamais annulé puisque 90% effectivement sera réalisé dans la planète. Et puis s'il fait beau, bien voilà, comme vous l'avez dit, à 23h on sort. On passe de la théorie à la pratique.
À la pratique, exactement.
Voilà, j'ai tout compris.
Tout à fait ça.
Mais il va falloir que je vienne alors. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, bon
été à vous et puis à très bientôt.
À très bientôt.
Radio Présence à Mirande 104.2.
Allez, tout de suite, à 12h31, on retrouve l'actualité de la mi-journée. Bonjour.
Bonjour à tous. En Ariège, la base nautique de Mercus a perdu 30 000 euros cet été après 3 semaines de fermeture. Cette fermeture est due à la baisse du niveau du lac utilisé pour alimenter le stade d'eau vide de Foix pendant les championnats du monde junior de canoë-kayak. La communauté de communes dénonce une violation de la convention avec EDF qui devait garantir un niveau d'eau suffisant. De son côté, EDF évoque des contraintes techniques et climatiques et rappelle que l'accord peut être révoqué. Les élus s'inquiètent pour l'avenir de ce site touristique et demandent réparation. À l'occasion du pèlerinage national de l'Assomption, Lourdes sera soumise à d'importantes restrictions de circulation et de stationnement du 12 au 16 août 2025. L'accès à plusieurs zones touristiques sera limité avec des interdictions de circuler durant certaines plages horaires. La préfecture renforcera aussi la sécurité autour du sanctuaire Notre-Dame avec un périmètre de protection. À Rocamadour, l'ascenseur menant au sanctuaire suscite un débat sur son accessibilité. Gratuit pour les personnes en fauteuil roulant, il reste payant pour d'autres handicaps au tarif de 2,30 euros l'allée simple. En pleine période de forte affluence, avec plus de 2000 passages par jour, la société gestionnaire défend ce prix, justifié par les investissements en sécurité. Certains visiteurs réclament une gratuité élargie, mais aucune évolution tarifaire n'est prévue pour l'instant. Lancée par la région Occitanie en 2021, l'application Fertic séduit peu à peu les voyageurs du Gers utilisant les trains et cars LIO. Son principe est simple, un geste sur un smartphone au départ et à l'arrivée et le meilleur tarif est automatiquement appliqué. Les jeunes voyagent gratuitement dès leur 11e trajet mensuel, tandis que les autres usagers profitent de réductions progressives, y compris les seniors. Sans réservation, elle permet aussi de monter à bord de trains complets. Dans le premier rapport de l'INSEE, la communauté de communes du plateau de Montbazan en Aveyron affiche le plus faible volume de déchets collectés par habitant en Occitanie en 2021. Un résultat obtenu sans politique particulière ni tarification incitative. Les habitants expliquent cette performance par des habitudes ancrées, tri sélectif, compostage et passage régulier en déchetterie. En Occitanie, la part des ordures résiduelles a reculé de 12% en 10 ans. Et enfin, la résidence étudiante Studently a ouvert ses portes à Montauban après 2 ans de travaux. Elle propose 102 logements, principalement des studios meublés avec kitchenette et salle de bain. Le bâtiment offre de nombreux espaces partagés, jardins, salle de sport, baby-foot, salle de coworking et même un terrain de pétanque. La résidence est située à proximité de la gare Villebourbon, sur l'ancien site de la cité Jean Jaurès. À ce jour, environ 60% des logements ont déjà été loués, signe d'un fort intérêt local.
Un grand merci à Carl Ponce, qui est élève à l'école de l'ISCPA à Blagnac, l'école de journalisme, qui reste avec nous tout cet été. Et on l'a, bien sûr, on l'a remercié. Le retour de l'actu, ce sera 13h avec toute la rédaction française de Radio Vatican. Mais tout de suite, un témoignage bouleversant, celui de l'invité de Mathias Terrier dans Deux Passages à Lourdes.
Présence. Deux Passages à Lourdes, proposé par Mathias Terrier.
Bonjour à toutes et à tous. L'émission que nous allons vivre ensemble va sans doute vous bouleverser. Nous recevons pour la deuxième fois dans Deux Passages à Lourdes Martine. Bonjour Martine.
Bonjour.
Je dis bouleversant parce que votre vie est celle d'abord d'une enfant brisée, d'une adolescence gâchée, voire plus, on va s'en rendre compte. La première fois que nous nous étions rencontrés, à l'époque, sortait un livre qui est le vôtre, qui est votre histoire, qui s'intitule « Le jour où j'ai pu pardonner les crachats de ma mère ». Le titre dit tout, il est suffisamment long et explicite pour dire combien, dès l'origine, dès votre arrivée dans cette vie, vous viviez cela comme un rejet, votre mère vous rejette, vous êtes maltraité, et puis vous allez, durant l'adolescence, vous allez sans doute nous le redire un peu, sombrer dans l'alcool, le sexe, la drogue aussi. Comment allez-vous, Martine, aujourd'hui ?
Ici à Lourdes, je vais très bien.
Vous êtes habillée, alors pour ceux qui ne connaissent pas l'habit du rosaire, des hospitalières du rosaire, vous avez ce béret, vous avez ces pins, vous êtes habillée en fait comme quelqu'un qui rend service et qui accompagne ceux qui ne peuvent pas tout seuls vivre leur pèlerinage, qui sont malades, en situation de fragilité ou de handicap. Et donc vous êtes officiellement hospitalière du rosaire. Vous allez bien quand vous êtes à Lourdes ?
Tout à fait.
On a envie de vous dire, et le reste du temps, comment ça va ?
Avec Jésus et Marie, ça va.
On comprend que vous servez ceux qui sont fragiles comme hospitalière, mais vous êtes vous-même fragile.
Oui, je reste fragile d'une histoire familiale qui est lourde à porter au quotidien, même si j'ai fait un long chemin.
On verra dans la deuxième partie de cette émission ce long chemin, cette reconstruction, dont je dis qu'elle est très précaire, sans vous manquer de respect, c'est que vous avez eu des pensées même suicidaires et des tentatives il y a encore 2 ans. Donc c'est dire combien tout cela est précaire. Mais il n'empêche qu'on va voir comment le chemin est un chemin de reconstruction. Tout de même, pour que nos auditeurs et ceux qui nous suivent par l'image, par les réseaux sociaux, puissent comprendre d'où part ce livre « Le jour où j'ai pu pardonner les crachats de ma mère », d'où part-il ? C'est vraiment un livre, à un moment, qui vous permet de raconter enfin cette histoire si douloureuse que vous viviez depuis l'enfance, la petite enfance.
Oui, c'est rien vient de moi, c'est des personnes que j'ai eues sur mon chemin qui m'ont, la première fois, on m'a demandé de témoigner de mon histoire, des personnes qui me connaissaient en paroisse, qui m'ont dit « Martine, faut continuer à témoigner ». Et au départ, j'étais très timide parce que je savais pas parler en public. Et donc du coup, dans ce livre, toute mon histoire familiale est reprise et relatée.
Vous n'êtes pas accueillie par votre maman ?
J'ai été rejetée à la naissance parce que je suis née fille. Elle avait déjà eu un garçon et je pense qu'elle avait une préférence. Enfin, ça s'est avéré dans mon histoire familiale. Elle avait une préférence pour les garçons.
Maltraitée,
une mère pas du tout. J'ai reçu aucun amour de ma mère et mon père qui était absent.
Et puis, de l'alcoolisme dans cette
famille. Oui, des parents alcooliques. Deux parents alcooliques.
Si bien qu'à 17 ans, Martine, vous vous retrouvez à la rue.
Oui, mes parents m'ont refusé les études. À 16 ans, on m'a dit « tu vas aller travailler pour amener de l'argent au foyer ». Donc, j'ai aucun diplôme dans les mains. Tout ce que je suis aujourd'hui, c'est moi. Je me suis construite toute seule. Et donc, je faisais des petits boulots et je donnais mes salaires à mes parents. Et un jour, ma mère m'attendait régulièrement si j'avais 5 minutes de retard pour me taper dessus derrière la porte de l'entrée de l'appartement. Et en fonction de son degré d'alcool à ce moment-là, me traitait de tous les noms. Et un jour, j'en ai eu marre de prendre des coups et des insultes gratuitement. Comme je grandissais, et ce jour-là, je me suis rebellée et je me suis battue avec ma mère. Et ma mère s'y attendait pas, parce que jusqu'à maintenant, je faisais le petit toutou quand encaissait les coups et les insultes sans rien dire. Et c'est ce jour-là, je lui réponds. Donc, elle a été un peu démunie et elle m'a dit, si t'es pas contente. Je me suis battue avec elle et elle m'a dit, si t'es pas contente, tu prends la porte. Et j'ai dit, oui, maman, la porte, je vais la prendre. Pareil, je pense qu'elle s'attendait pas à ma réponse. Et elle m'a dit, si tu passes la porte, tu prends tes affaires, tu remettras jamais les pieds ici. Et j'ai dit, ok, je m'en vais. Et c'est comme ça, je me suis retrouvée à la rue à 17 ans et demi.
Et là, la vie de la rue est tout aussi cruelle que la vie familiale, en fait. Martin.
Oui, parce qu'en fait, 17 ans et demi, on est jeune. J'étais jeune. On s'imagine que ça y est, c'est le mot que j'avais employé d'ailleurs. Hein. Chouette, c'est la délivrance. Pas du tout, parce que la rue, c'est la rue de tous les dangers. Hein. N'ayant reçu aucun amour de mes parents, de l'amour, Jésus le dit, hein, on vient sur terre pour aimer, mais aussi pour être aimé. Moi, j'ai jamais été aimé, donc forcément, j'ai fait des mauvaises rencontres dans la rue, parce que je cherchais absolument à ce qu'on m'aide, à ce qu'on m'aime. Du coup, je fréquentais les bars le soir après mes journées de travail de labeur. Je faisais des ménages dans des propriétés, et du coup, en traînant dans des bars, je me suis donné à des hommes sans réfléchir, parce que je pensais qu'on allait enfin m'aimer.
Et vous-même, à un moment, l'alcool vous sert à oublier ou à continuer de vivre, ou bien...
Alors en fait, j'avais commencé à boire, j'ai eu cette chance, je pense, où le Seigneur était déjà là, mais je ne le savais pas, je n'aimais pas ça. Comme j'ai commencé à fumer, et je n'aimais pas ça, donc tout de suite, en fait, j'ai arrêté assez rapidement. Et ça, je pense que ça m'a un peu sauvé aussi. Par contre, sexuellement parlant, j'ai fait des choses qu'aujourd'hui, je ne suis pas fière.
Vous allez devenir policière. Que de chemin entre ce que vous nous racontez là, à 17 ans, et ce métier que vous allez exercer pendant combien de temps vous allez...
28 ans en région parisienne.
28 ans. Là aussi, c'est vous qui, par volontarisme, décidez... d'accéder à ce type de fonction, de mission. Vous y tenez 27-28 ans.
Alors en fait, au départ, je vous ai dit, mes parents m'ont refusé les études. Et du coup, je pense qu'à un moment donné, dans ma tête, parce que ma mère me traitait de merde tous les jours. J'entendais, ma fille, tu n'es qu'une merde. J'entendais ça 10 fois par jour. Tu n'es qu'une merde bonne à jeter dans un caniveau. Tu feras jamais rien de bien de ta vie. OK, donc effectivement, quand vous entendez ça 8 à 10 fois par jour, vous le pensez que vous êtes cette merde que votre mère a mis au monde. Mais malgré tout, j'ai toujours une force en moi. Enfin, c'est ce que les gens me disent. Et malgré moi, je me suis dit, non, maman, je vais te prouver un jour que je suis pas cette merde. Et du coup, tout en travaillant, je me suis offert, moi, des cours que je me suis payé par correspondance. Ce qui fait que je travaillais la semaine, j'avais des journées très dures, j'étais bonne, en fait, chez des patrons, dont j'avais des grosses propriétés, j'étais très jeune. Mais le week-end, je sortais pas, et je suis passée par un organisme de cours par correspondance, et j'ai repris des études par correspondance. Et c'est par ce biais, en fait, que j'ai passé des concours administratifs. À l'époque, on rentrait juste avec le BEPC. Aujourd'hui, ce serait plus possible. Et j'ai eu cette chance, en fait, de réussir. Alors, la police, c'était pas du tout réfléchi pour moi. C'est quelqu'un, encore une fois, sur mon chemin, qui m'a dit, mais Martine, pourquoi t'essayes pas le concours pour rentrer chez nous? Je dis, non. Je dis, enfin, j'avais visé autre chose. Et puis, il m'a apporté les papiers. J'ai passé le concours. Et j'ai été reçue. Et j'ai dit, je ne peux pas laisser échapper cette chance. Donc, j'ai su la saisir. Et effectivement, j'ai fait 28 ans de police en région parisienne.
Et puis donc, enclenchant cette phase de réussite, vous mettez un peu l'été noir sur tout ce que vous avez vécu. Et ça ressurgit au moment de votre mariage, à l'âge de 30 ans.
Voilà, je suis rentrée en police, je crois que j'avais 26 ans ou 24 ans. Et en fait, vers les 28 ans, je rencontre... quelqu'un qui dit, cette personne va, voilà, on va faire un bout de chemin ensemble. C'était un gendarme. Et du coup, au bout de 2 ans, il m'a demandé en mariage. Et là, enfin, on en avait parlé. Moi, au départ, j'avais dit non, pas de mariage, pas d'enfant, parce que j'avais eu une image tellement négative chez mes parents du mariage et de la famille, et je sentais en moi que j'avais des crises, mais je savais pas pourquoi. Si on vous dit pas pourquoi tu vas pas bien, du coup moi j'allais bien et des fois j'allais pas bien, mais je savais pas pourquoi. Mais je me suis quand même mariée à 30 ans.
Oui. Et là, finalement, rien ne fonctionne comme vous le pensez, tout ressurgit d'une certaine façon, peut-être même plus fort encore.
En fait, au cours de mon mariage, donc je suis tombée une première fois enceinte, et là pour moi ça a été un choc, un tsunami dans tout mon être, parce que c'est à ce moment-là que mon passé a commencé à me péter à la figure. J'avais des idées de nouveau là. Je voulais mettre fin à mes jours. Cette grossesse, je n'en voulais absolument pas. Tout mon être me disait non. Et j'allais vraiment pas bien.
Au point même que vous ne pouvez pas donner la vie. Enfin, il y a quelque chose qui est presque mystérieux, hein, quand on en parle comme ça. Vous ne réussissez pas à donner la vie aux enfants que vous avez en vous.
J'avais pas du tout commencé de chemin sur mon histoire personnelle. J'avais tout enfoui en moi, et du coup, je dis toujours, ma mère m'a détruite. Et il fallait que je sois reconstruite avant moi de pouvoir construire quelque chose. Et là, j'ai tout découvert, que j'avais fait le chemin à l'envers, en fait. Et tout effectivement s'est écroulé après 4 tentatives de grossesse que je n'ai pas réussi à mener à terme.
Deux interruptions volontaires de grossesse.
J'ai subi donc 2 interruptions volontaires de grossesse dont je suis pas fière. Une fausse couche et une mort in utero au bout de 3 mois. En fait, mon corps refusait la grossesse, tout simplement.
Qu'est-ce qu'on se dit à l'âge de 30-35 ans, là, vous avez cet âge-là, à ce moment-là, alors même que vous avez fait tant d'efforts pour vous construire ou vous reconstruire, on a le sentiment que c'est un petit peu comme ce rocher qu'on essaie de gravir et duquel on tombe sans cesse dans ce mythe de Sisyphe.
Ouais, bah de nouveau, en fait, après ces 4 tentatives de grossesse, donc mon couple, évidemment, va éclater, et je me retrouve une deuxième fois à la rue. Et là, ça a été pour moi de nouveau, tout s'écroulait une deuxième fois dans ma vie. Tout s'écroulait. Et à partir de ce moment-là également, j'avais des idées très noires, parce que j'ai dit, ma vie, c'est... Oui, maman, t'avais raison, finalement. Ma vie, c'est de la merde depuis que je suis née.
Martine, on va marquer une pause dans cette émission. À ce stade de votre témoignage, évidemment, on se dit, mais... comment est-ce possible de continuer dans ces circonstances? Comment fait-elle pour rebondir? On va voir que quand même, au-delà même de la question de l'espoir, de la reconstruction, de ce que certains appellent la résilience, pour vous va naître un chemin d'espérance. Et c'est la deuxième partie de cette émission. À tout de suite.
Présence de passage à Lourdes, proposée par Mathias Terrier.
Notre invitée aujourd'hui est Martine. Merci Martine d'accepter ce témoignage. Je le disais en commençant cette émission, nous nous sommes rencontrés il y a déjà 10 ans, peut-être un peu plus, au moment où sortait ce livre qui raconte une partie de votre vie, parce que dans ce que nous allons maintenant entendre, c'est l'autre partie de votre vie, cette partie que j'appellerais plus de la reconstruction et du chemin d'espérance. Le livre s'intitulait « Le jour où j'ai pu pardonner les crachats de ma mère ». On a redonné quelques épisodes très douloureux de votre vie, votre enfance, votre adolescence, votre vie de jeune, de votre vie de femme jeune, mariée puis divorcée. Nous nous sommes arrêtés là, où c'est très désespérant, si je puis me permettre, Martine. On se dit, mais quelle vie cabossée. À partir de quand fait irruption la question de l'espérance, c'est-à-dire de la foi? Qu'est-ce qui se passe dans votre vie pour qu'à un moment, vous soyez au fond et hop, un petit coup de pied pour remonter du fond de la piscine?
Alors, en fait, je suis pas quelqu'un qui a été élevé dans la foi. J'avais juste été baptisé à l'âge de 2 ans parce que je pense qu'à l'époque, c'était la coutume de baptiser les enfants, surtout que ma mère était de la campagne et ça se faisait, voilà. Et on était baptisés et après, moi, j'ai pas du tout évolué mes parents ne pratiquaient pas. C'était, au contraire, chez moi, c'était l'alcool, les violences, les insultes. Le Seigneur, j'en entendais jamais parler. Je connaissais rien. Et au moment de ma séparation, donc je me suis retrouvé une deuxième fois à la rue, je crois que je l'ai dit tout à l'heure. Et bah pareil, avec des idées noires du vendredi au dimanche, je me suis enfermé pendant 2 jours parce que j'avais eu aussi un événement professionnel qui me mettait de nouveau aussi à terre. Et j'ai dit là, enfin c'est fini, là j'en peux plus, j'ai plus la force de me battre. Et je sais pas pourquoi. Alors là, je dis Seigneur, il y a que toi qui sais. Hein. Toujours est-il que ce dimanche-là, j'ai trouvé la force de me lever, de m'habiller, et je suis rentré dans l'église. C'est des amis en fait qui m'avaient récupéré. J'étais dans l'Oise à l'époque, et j'ai dit bah je vais rentrer dans l'église, je vais assister à la messe. Mais comme j'y allais jamais, je connaissais même pas le rituel de la messe. Donc j'ai dit je vais y aller. Et j'ai franchi le seuil de cette église. Là, ce dimanche matin, et bah là, ça a été en fait au moment de l'homélie du prêtre, j'ai pris un chaos en plein cœur. Les mots du prêtre sont vraiment venus me toucher en plein cœur de ce que j'étais en train de vivre dans ma souffrance. C'était vraiment. Et du coup, là, je suis partie. Évidemment, j'ai pas réussi à contenir mon émotion qui était très forte. Et du coup, je suis partie en crise de larmes pendant la messe. Et j'étais un peu gênée parce que, voilà. Et tout a démarré là parce qu'au moment de la sortie, j'ai voulu me faire très discrète à la sortie de cette messe. Et une personne que j'avais déjà vue, mais que je connaissais pas plus que ça, m'a mis la main sur l'épaule, qui m'a dit « Je crois que vous allez pas bien, est-ce qu'on peut vous aider ?» Et là, je suis quelqu'un de poli, donc je l'ai envoyé balader gentiment, mais j'ai dit « Foutez-moi la paix, plus personne ne peut rien pour moi. » Tellement les adultes de mon entourage m'avaient trahi jusqu'à maintenant. J'ai dit « Là, foutez-moi la paix. » Et là, elle m'a dit « Non, non, mais moi, je peux pas vous laisser... On est dans une église, là, je peux pas vous laisser partir comme ça. » J'ai dit « Si, si, vous allez me laisser partir. » Et en fait, cette personne m'a fait tenir promesse que je la reverrai très rapidement. Et je l'ai rencontrée, donc, 2 jours après. Et là, j'ai déballé tout mon parcours dans les larmes, la colère, la haine que j'avais à l'époque de ma mère. Et elle m'a écoutée. Et elle m'a posé qu'une seule question à la fin. Elle m'a dit « Martine, veux-tu rencontrer un prêtre ?» Et là, pareil, j'ai dit « Oui, mais je savais pas pourquoi. Je savais même plus où j'étais, où j'habitais. Tellement j'étais noyée qui s'engluait dans ma souffrance. Donc j'ai répondu « Oui, mais je savais pas du tout ce que ça allait. » Voilà, donc tout a démarré comme ça.
Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous diriez de votre chemin de foi? Vous avez, j'imagine, une vie de prière, un dialogue intérieur avec Jésus, la place de Marie, ça nous intéresse, parce que la figure féminine, vous êtes à Lourdes. Là aussi, on a envie de dire, Martine, c'est paradoxal, enfin, vous pourriez rejeter la place de la Vierge Marie dans votre propre vie. Comment ça se passe tout ça? Comment ce chemin de foi se construit-il aujourd'hui?
Alors effectivement, j'ai une vie de prière. Des fois, il y a des hauts, il y a des bas, surtout quand je suis en souffrance. Des fois, j'arrive pas à prier, j'ai pas peur de le dire. Quand je vais pas bien ou j'ose demander la prière à des frères et sœurs, voilà, qui savent que de temps en temps, j'ai besoin d'être... Marie a pas été facile non plus pour moi à accepter au début de mon parcours de foi, effectivement. Vous venez très bien de le souligner parce que Marie, elle représente la figure féminine. Donc au départ, j'avais dit non, non, ça, je pourrais pas. Puis finalement, aujourd'hui, j'ai un lien tellement fort avec Marie que voilà, je peux pas aujourd'hui prier Jésus sans passer par Marie. Et j'ai besoin de venir à Lourdes plusieurs fois par an. Je visite d'autres sites mariales et j'ai un rapport à Marie qui est, tous ceux qui me connaissent le savent très bien. Et il est là et il sera toujours là, ce lien à Marie.
Donc vous dites, ma foi, ce n'est pas un bloc, ça reste complexe, avec des doutes, des moments de vie, de nuit même.
Oui. Des fois, je peux être dans, voilà, dans, je peux traverser des ce qu'on appelle la nuit de la foi ou quelque chose comme ça. Voilà. Oui, ça m'arrive, surtout quand on est de nouveau à terre, parce que des fois, on se dit, je le dis souvent, quand on est malade, on veut guérir tout de suite, mais on veut que ça continue. Puis en fait, tu vas bien, puis d'un seul coup, puis moi, je joue un peu aux montagnes russes. Saint-Martin, elle va bien. Puis d'un seul coup, je vais être à terre et puis il va y avoir parce que quelque chose dans mon parcours va me rappeler quelque chose peut-être de mon histoire ou je ne sais quoi. Et du coup, il y a des fois, j'ai du mal à prier. J'ai pas peur de le dire. J'ai la foi, mais des fois, c'est dur de me mettre aussi en prière. Des fois, voilà.
Vous trouvez aussi un réconfort à servir les autres, à les aider. Vous avez quitté la carrière dans la police. Il y a déjà une dizaine d'années. Vous avez été éducatrice dans un lycée. Et puis aujourd'hui, vous donnez de votre temps à ceux qui en ont besoin, on va dire comme ça. Ça correspond aussi à votre construction.
Oui, ça c'est... Alors, pareil, ceux qui me connaissent, ils savent, c'est l'essentiel pour moi dans ma vie de donner de mon temps, de mon énergie, de tout ce que je peux, moi, Martine, avec ma personne, avec aussi mes faiblesses, des fois, peut-être mes coups de colère, mais d'être présent à ceux qui en ont le plus besoin, aux autres. Je fais plein de bénévolat aujourd'hui en Mayenne. Je suis bénévole dans un prieuré. Auprès de frères avec qui je suis très proche, je donne de mon temps à l'épicerie sociale, pareil en Mayenne, où pareil, j'aime beaucoup ce que j'y fais, et je sais que c'est utile aux bénéficiaires qui viennent après en journée, qui en profitent, et puis être à Lourdes, alors là, c'est vraiment le summum du service, d'être au plus près du plus petit, de celui qui est en fauteuil, de celui qui peut pas marcher, on repart là, c'est fatigué, mais avec une joie d'avoir servi son prochain et de dire, j'ai donné un petit peu de ma personne, dans ce que je suis moi, mais d'être là pour ceux qui en ont le plus besoin. Et ça, pour moi, c'est quelque part, c'est mon moteur. C'est mon moteur.
Donner, recevoir, ça paraît un peu mystérieux ce qui se passe en fait dans le soi, dans la générosité.
Je comprends pas tout. Je crois que je comprendrai rien de mon histoire, et si ce n'est peut-être quand j'arriverai au ciel. Moi, je sais que je donne beaucoup. Je reçois des autres, je reçois de Jésus, mais des fois ça me dépasse aussi, où je perçois pas toujours non plus. Je pense ce que je reçois du ciel, ou des fois je dis mais je l'ai pas senti tout de suite, puis peut-être que Seigneur ça venait de toi, voilà. Mais je reste, j'essaye de rester dans cette espérance et de croire jusqu'au bout qu'on n'est pas seul.
Martine, qu'est-ce que vous avez fait de cette colère qui vous a longtemps rongé, peut-être encore un peu d'ailleurs? Aujourd'hui, elle est encore là, la colère contre votre maman, contre cette famille qui n'a pas su vous faire grandir dans la sérénité, dans la paix.
Ma maman, j'ai eu beaucoup de colère, évidemment, quand j'ai fait un travail sur moi avant de faire et après j'ai fait un chemin de pardon qui est posé. Il est vraiment posé. Je sais que ma maman, elle est libérée. Je prie régulièrement pour elle. Enfin, peut-être pas prier, mais quand je reçois la communion, c'est maman, je t'aime. C'est quelque chose que j'avais jamais pu dire avant. Donc, j'ai vraiment eu de la haine contre ma maman. Aujourd'hui, non. Et je sais qu'elle est délivrée. J'en ai reçu une année au 15 août. J'ai reçu cette grâce de Marie que je sentais que ma maman, ça y est, elle était libérée de notre histoire familiale. Et ça m'a fait du bien. Ça m'a permis aussi de continuer à avancer. Donc, j'ai plus de ressentiment envers ma mère. Elle a eu une histoire aussi pas facile. Ça n'excuse pas tout, mais ça m'a aidé aussi à comprendre notre histoire. Je sais qu'elle est là-haut. Je sais qu'elle m'accueille. Elle n'a pas su m'accueillir sur Terre, mais je pense qu'elle m'accueillera quand j'arriverai au ciel. Donc, la colère, non. Contre ma maman, il n'y en a plus. Par contre, je ne sais pas si c'est de la colère, mais je souffre énormément. Et ça, c'est de ne pas avoir... Peut-être que j'ai de la colère, en fait, envers moi. Même si des fois on me dit mais Martine c'est pas de ta faute, t'as tellement subi de choses, je suis en colère après moi de ne pas avoir réussi à peut-être donner la vie et à construire cette famille qui m'a tant manqué étant enfant et adolescente. J'en avais une, mais qui était tellement violente et fracassée que finalement j'ai l'impression de pas avoir eu de famille. Et aujourd'hui, moi-même, je n'ai pas réussi non plus à construire cette famille. Et aujourd'hui, je le dis souvent quand j'ai l'occasion de témoigner, c'est ma croix. Jésus me demande de la porter, je la porte tous les jours. Elle est lourde.
La croix, c'est la solitude.
Ouais. Parce que j'ai rien construit. Du coup, je suis seule. Aujourd'hui, je n'ai aucune cellule familiale. Je n'ai aucun lien familial. Tous les liens que j'ai autour de moi, c'est des liens de bénévolat, des liens ici. Ma famille hospitalière, elle est précieuse pour moi. Ils le savent. Voilà. Mais je n'ai aucun lien familial. Et du coup, ça crée une grande solitude.
Il y a quand même un aspect admirable dans votre parcours, c'est que vous n'avez pas reproduit ce que vous avez subi. Pas totalement, en tout cas aujourd'hui, au moment où on vous voit. C'est-à-dire que vous avez quand même cassé une spirale infernale. Est-ce que vous diriez que ça, c'est l'irruption inattendue de la foi, de Dieu, de la question spirituelle qui, à un moment, casse ce cercle infernal?
Oui, bien sûr. Ça me parle beaucoup ce que vous me dites parce que... Alors bien sûr.
Radio Présence dans la vallée de la Garonne, 97.9.
Radio Vatican,
le journal.
Le journal.
Alors que vendredi prochain aura lieu une rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine, les Ukrainiens.